Je crois que la contribution du pape à l'Union européenne maintenant, c'est celle de donner une direction politique. Bien entendu, le pape ne fait pas de la politique au sens traditionnel, mais la direction politique, la direction stratégique, c'est quelque chose qui manque maintenant dans le discours politique européen. Et donc, il a rétabli les priorités de l'Union européenne, qui sont les priorités du respect des droits de l'homme et aussi, en même temps, disons, l'ouverture vers le monde autour de l'Europe. Donc, cette fermeture de l'Europe, c'est quelque chose qui n'est pas à hauteur de la tradition européenne. Et donc, il a dit exactement ça au Parlement européen. L'Europe doit être une référence pour l'humanité, mais quand l'Europe se ferme sur elle-même, va être, disons, une sorte de trahison à la mission de l'Europe dans le monde.
Le prix Charlemagne qui est remis au pape François, est-ce que, d'une certaine manière, et de manière surtout paradoxale, est-ce que ce n'est pas reconnaître que le pape a raison d'avoir, entre guillemets, tensé les Européens sur tous ces sujets?
En effet, le pape a dit que l'Europe n'est pas à mesure d'être, disons, dans le monde contemporain, des points de repère, comme l'a été dans le passé avec la question des droits fondamentaux, avec l'ouverture vers la diversité et tout ça. Le paradoxe là-dessus est aussi que le pape a un peu changé la perspective du Vatican vis-à-vis de l'Union européenne, parce qu'il y a quelques ans, il y avait des discours des racines chrétiennes de l'Europe qui étaient, disons, l'argument fondamental du Vatican vis-à-vis de l'Union européenne. Mais maintenant, c'est plutôt la question des fruits chrétiennes. Qu'est-ce qu'on fait, les nations européennes qui ont une tradition chrétienne, pour être réellement cohérentes avec le message du christianisme? Ça, c'est la question qui a changé de façon fondamentale dans le discours du pape maintenant.
Est-ce que, selon vous, le pape François a été entendu, a été compris par l'Union européenne?
Je crois qu'il y a beaucoup de mouvements dans l'opinion publique qui considèrent que le pape a réellement touché un point central pour l'avenir de l'Europe même. Mais d'autre côté, il y a aussi une sorte d'automatisme dans les politiques européennes au niveau national, qui fait en sorte que les choix politiques soient pour, disons, l'opinion publique du moment, qui est un peu permis, influencé par la peur. Et justement, le pape a dit l'Europe doit démontrer qu'elle n'est pas plus un continent de la peur, mais un continent de l'espoir. Il y a, disons, une dialectique. Je ne vois pas immédiatement le message du pape être traduit dans des politiques concrètes. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire.
Comment l'Union européenne peut-elle se montrer à la hauteur des valeurs qui la fondent?
Les valeurs européennes fondamentales sont déjà reconnues dans des documents et dans des chartes qu'on a adoptées ensemble. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que l'identité européenne, c'est une identité plurielle. Donc, c'est justement la question de l'identité chrétienne, mais il faut prendre en compte aussi les autres courants qui ont caractérisé, disons, la formation de l'Europe. Je crois qu'un point réellement définissant pour l'Europe, c'est la question de la solidarité. Donc, c'est la solidarité entre les pays membres, et aussi la capacité de l'Union européenne de démontrer un peu plus de solidarité vers les réfugiés, par exemple.
Comment, selon vous, on peut faire aimer de nouveau l'idée de l'Union européenne et de l'intégration européenne, alors que dans de nombreux pays, on assiste plutôt à la montée de forces centrifuges?
Oui, ça, c'est un problème réellement. Je crois qu'on doit reconnaître qu'on a pensé que la liberté de circulation entre les États membres pour les citoyens européens était la réponse pour construire une identité européenne, une véritable citoyenneté européenne. Ça n'a pas marché parce que ce n'est pas suffisant d'ouvrir les frontières avec Schengen, tout ça, pour créer une identité commune européenne. L'identité politique européenne se joue aussi dans la question démocratique. Maintenant, par exemple, il y a une perception de l'opinion publique d'opacité du processus communautaire, des prises de décisions dans les institutions européennes. Et donc, on devrait faire des pas en avant pour rendre ça un peu plus lisible par les citoyens. Et cette perception de la distance entre les institutions et les citoyens est un problème très grave aujourd'hui.